de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux,
les infos de l'Indonésie,
l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, comme d'habitude, nous commençons par les journaux. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'accord de coopération sino-saoudien entre autres sur la sécurité et le pétrole. Le ministre du Travail de Singapour propose des efforts pour une reprise inclusive. La Chine lance un avion C-919 qui devrait concurrencer Boeing Airbus. Le président indonésien Joko Widodo devrait assister au sommet de l'Union européenne ASEAN en Belgique. L'Indonésie exploite le potentiel du marché mondial des produits halal, a déclaré le ministre de l'Industrie. Chers amis, nous présentons maintenant le journal en complet. La République populaire de Chine et l'Arabie Saoudite ont convenu de travailler ensemble en alignant leurs politiques dans divers domaines, entre autres la sécurité et le pétrole. Cité par CNN, les deux pays ont fait une déclaration conjointe vendredi lors de la visite du président chinois Xi Jinping au Royaume d'Arabie Saoudite. Les deux pays ont également convenu qu'ils se soutiendraient sans s'immiscer dans les affaires antérieures et d'autres. Dans une déclaration conjointe de la Chine et de l'Arabie Saoudite publiée par l'agence de presse saoudienne SPA, les deux pays ont déclaré un accord sur diverses questions mondiales, y compris l'énergie, la sécurité, le programme nucléaire iranien, la crise au Yémen et la guerre russe en Ukraine. La Chine et l'Arabie Saoudite ont souligné l'importance de la stabilité du marché mondial du pétrole et ont noté que l'Arabie Saoudite était un exportateur fiable de pétrole brut vers la Chine en tant que partenaire. Le ministre du Travail de Singapour, Tan Sin Ling, présente des propositions pour une reprise inclusive et centrée sur les personnes lors de la séance de clôture de la 17e réunion régionale de l'Organisation international du travail Asie-Pacifique à Singapour vendredi. Selon Tan, l'importance de la tripartite coopération et dialogue social, c'est la base de l'OIT et doit exister toujours. Tan Sin Ling a souligné les hommes d'affaires doivent se rendre compte que le monde du travail qui ne traite pas ses travailleurs équitablement conduira à des mauvaises conditions sociales conduisant à une société fiable et facilement divisée. Et les travailleurs doivent coopérer avec les employeurs pour améliorer ou accroître leurs compétences afin de pouvoir accéder à de nouveaux emplois et s'adapter à de nouvelles méthodes de travail afin que les travailleurs et les entreprises puissent se développer ensemble. La République populaire de Chine a annoncé la première livraison de son premier avion de passagers de production nationale C-919 vendredi, heure locale. L'avion de passagers de fabrication chinoise fera ses débuts commerciaux au début de l'année prochaine. Comme l'a rapporté AFP vendredi, Pékin s'attend à ce que l'avion de passagers C-919 rivalise avec des modèles étrangers tels que le Boeing 737 MAX et Airbus A320, bien que la plupart de ces pièces de rechange proviennent de l'étranger. Le premier modèle d'avion de passagers à fuselage mince avec 164 sièges de passagers a été officiellement remis à China Eastern Airlines lors d'une cérémonie à l'aéroport de Shanghai vendredi, heure locale. Le président indonésien Joko Widodo doit assister au sommet commémoratif de l'Union européenne ASEAN à Bruxelles, Belgique, mercredi. Le député au protocole pers et médias secrétariat présidentiel, M. Bey Mahmoudin à Jakarta, a déclaré vendredi que le sommet commémoratif de l'Union européenne ASEAN était le premier sommet entre les dirigeants de l'Union européenne et des pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, ou ASEAN, pour marquer 45 ans de relations diplomatiques entre les deux organisations gouvernementales. Le président du Conseil européen, Charles Michel, et le président de l'ASEAN 2022, le premier ministre cambodgien Hun Sen, devraient co-présider le sommet de l'Union européenne-ASEAN à Bruxelles. Selon Bey Mahmoudin, le sommet est l'occasion de réaffirmer l'engagement de l'Union européenne et de ses États membres au partenariat stratégique de l'Union européenne-ASEAN. Le ministre de l'Industrie, M. Agus Gumiwang Kartasasmita, a déclaré que l'Indonésie profiterait le potentiel du marché mondial des produits halal. Il voit l'énorme potentiel du marché et la demande de produits halal. Cela a été déclaré par le ministre de l'Industrie Agus Gumiwang à Jakarta vendredi lors de sa participation à l'événement du prix de l'industrie halal d'Indonésie 2022. Agus Gumiwang Kartasasmita a souligné de nombreux produits halal dominent le marché mondial sont produits par des pays à majorité non-musulmans. Par conséquent, le ministre de l'Industrie a pris l'initiative de décerner des prix par le prix de l'industrie halal d'Indonésie pour encourager de plus en plus d'entreprises industrielles à entrer sur le marché mondial et répondre à la demande mondiale de produits halal. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Chers amis des quatre coins du monde, maintenant nous allons vous présenter la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie. Les premières nouvelles sont venues de Surabaya, Java Oriental. 95 photos de la bataille du 10 novembre 1945 sont exposées lors du défilé Suraingbaya qui s'est tenu au sous-sol de Balai Pemuda dans la ville de Surabaya, Java Oriental, du 4 au 18 décembre 2022. Le curateur de l'exposition Suraingbaya, M. Yayan Indrayana à Surabaya jeudi a déclaré que même si le novembre était passé, cela ne signifie pas que les agendas thématiques héroïques sont terminés. Yayan a expliqué que plus de 95 photos qui sont exposées consistaient des photographies originales de la bataille du 10 novembre 1945. Documentation du processus de reconstruction pendant le processus de production du film pendant la période septembre jusqu'à novembre 2022 et d'autres archives importantes. Cette activité est également remplie d'agenda de discussions thématiques, théâtrales, ainsi que d'ateliers de fabrication d'uniformes et d'attributs guerriers, afin que les visiteurs puissent mieux comprendre le sens ou la signification de sa collection exposée. Les nouvelles suivantes sont venues de Kapuas Hulu, Kalimantan Occidental. Les habitants de la tribu Dayak Kayan Mendalam à Kapuas Hulu dans le Kalimantan Occidental organisent un festival culturel qui vise à protéger et préserver la culture ancestrale. Le régent de Kapuas Hulu, Francis Diaan, lors de l'ouverture du festival culturel Kayan Mendalam dans le nord de Putus Sibau, Kapuas Hulu, jeudi a déclaré que le gouvernement de la régence de Kapuas Hulu soutenait fermement toutes les activités de préservation des coutumes et de la culture Et aussi de la sagesse locale, afin qu'il ne soit pas érodé par le développement technologique. Francis invite également la jeune génération à promouvoir les coutumes et la culture en utilisant les médias sociaux qui se développent actuellement rapidement. La dernière nouvelle en provenance de Probolinggo, Java Oriental. Les visites au Mont Bromo sont limitées pendant l'ouverture et la fermeture de Wulan Kapitu, car il y a un rituel Megang Wulan Kapitu tenu par la tribu Tengger sur les pentes de la montagne. L'ouverture de Wulan Kapitu commence le vendredi 23 décembre à 18h heure locale jusqu'au samedi 24 décembre à 18h heure locale. La fermeture de Wulan Kapitu le 21 janvier 2023 à partir de 18h heure locale jusqu'au 22 janvier 2023. Les sites touristiques qui ne peuvent pas être visités par des véhicules motorisés comprennent le Mont Bromo, la mer de sable, Savan et Mentigen. Wulan Kapitu, ou le 7e mois du calendrier de la tribu Tengger, est considéré par les anciens ou les dirigeants de la communauté comme un mois sacré, car ce mois-là, les gens de la tribu Tengger pratiquent le jeûne mutih pendant un mois. Chers amis, c'était la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Sesami Wasi l'histoire aujourd'hui. Le 10 décembre 1901, la remise du premier prix Nobel à Stockholm, Suède. Les prix Nobel sont décernés chaque année à ceux qui ont effectué des recherches exceptionnelles, inventé de nouvelles techniques ou de nouveaux équipements, ou ont apporté des contributions exceptionnelles à la société. Le prix Nobel est décerné chaque 10 décembre pour coïncider avec la date du décès d'Alfred Nobel, un scientifique qui a légué sa fortune pour décerner le prix Nobel depuis 1901. Le 10 décembre 1948 est la journée des droits de l'homme. La journée des droits de l'homme est célébrée chaque année par de nombreux pays, y compris l'Indonésie, le 10 décembre. Cette date a été choisie en référence au 10 décembre 1948, lorsque l'Assemblée générale des Nations unies a adopté et proclamé la Déclaration universelle des droits de l'homme. La commémoration a été commencée en 1950, lorsque l'Assemblée générale invite toutes les nations et organisations concernées à célébrer. Le 10 décembre 1957, le gouvernement crée la Compagnie nationale du pétrole. L'histoire de Pertamina a été commencée dans les années 1950 lorsque le gouvernement de la République d'Indonésie a nommé l'armée de terre pour établir PT Exploitasi Tambang Minyak Sumatra Utara pour gérer les champs pétrolières dans la région de Sumatra. Le 10 décembre 1957, la société a changé son nom en PT Perusahaan Minyak Nasional ou Permina. Cette date est commémorée comme la naissance de Pertamina jusqu'à présent. En 1960, PT Permina a changé son statut en entreprise d'État Pertamina. Et ensuite, PN Permina a fusionné avec PN Pertamin le 20 août 1968 pour devenir l'entreprise d'État pour l'exploitation du pétrole et du gaz naturel, ou Pertamina. Pour renforcer cette entreprise, le gouvernement a promulgué la loi numéro 8 en 1971 qui a fait de Pertamina une société pétrolière et gazière d'État. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci de Kuta Labua, de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Chers amis, on va sur la rubrique L'accueil diplomatique, intitulée L'ambassade d'Indonésie à Tunis organise une rencontre avec les amis de l'Indonésie en Tunisie. L'ambassade de la République d'Indonésie à Tunis a tenu mardi une rencontre amicale avec la communauté des amis indonésiens qui sont tous citoyens tunisiens. Selon un communiqué de l'ambassade d'Indonésie à Tunis mercredi 7 décembre, cette activité est un rendez-vous annuel qui se tenait cette fois pour promouvoir l'Indonésie et transmettre le succès du sommet du G20 à Bali. À cette occasion, l'ambassade d'Indonésie à Tunis a également ouvert un canal pour les aspirations des citoyens tunisiens qui entretiennent des liens étroits avec l'Indonésie afin de renforcer les relations bilatérales entre l'Indonésie et la Tunisie. L'ambassadeur d'Indonésie en Tunisie, M. Zuhairi Misrawi, a dit du développement de l'Indonésie au cours de la dernière décennie et souligné la nécessité de renforcer les relations bilatérales entre l'Indonésie et la Tunisie, notamment au niveau communautaire. Selon lui, la communauté des amis de l'Indonésie ont une affinité particulière avec l'Indonésie parce que certains ont terminé leurs études en Indonésie et parlent couramment l'indonésien. De plus, il y a aussi ceux qui participent au programme de promotion du tourisme indonésien et ont une relation étroite avec l'ambassade d'Indonésie à Tunis. L'ambassadeur Zuhairi a également évoqué le succès de l'Indonésie à la présidence du G20 et la tenue du sommet du G20 à Bali, qui a attiré l'attention du monde entier, y compris la Tunisie. Il a déclaré, à travers le G20, l'Indonésie veut créer un monde pacifique et peut apporter des relations aux problèmes mondiaux rencontrés après la pandémie. L'ambassadeur a déclaré que la communauté des amis de l'Indonésie en Tunisie pourrait devenir un porte-parole de l'Indonésie, notamment afin de diffuser le rôle de l'Indonésie sur la scène mondiale. Lors de l'événement amical avec la communauté des amis indonésiens, l'ambassade d'Indonésie à Tunis a également présenté des danses et des chansons indonésiennes et a servi une cuisine indonésienne populaire et appréciée des Tunisiens, comme les boulettes de viande, le soto, le riz frit et le rendang. Chers amis, c'était la rubrique L'accueil diplomatique de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Saja ini terbaik.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers amis de quatre coins du monde, merci d'être fidèles à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel. Et cette fois, nous allons vous présenter la place de Kedaung Tumpang dans l'est de Java. Tulungagung est un district situé dans la province de Java orientale. La capitale est le district de Tulungagung, connu comme l'une des plus grandes régions productrices de marbre d'Indonésie. Le district de Tulungagung, situé à 154 km au sud-ouest de la ville de Surabaya, la capitale de la province de Java orientale. En plus d'être célébré pour son marbre, Tulungagung possède également une belle place de Kedung Tumpang située dans le village de Pucang Laban. La place de Kedung Tumpang possède une place de Corée unique. Lorsque vous visitez cette place, vous ne trouverez que des rochers qui ont une forme unique. Le terrain à traverser pour se rendre sur cette place est assez difficile et escarpé. Cette place est entourée de nombreuses falaises. Pour les touristes qui aiment grimper, escalader, le malaise de la place de Kedung Tumpang est quelque chose à ne pas manquer. Parce que lorsque vous arrivez au sommet de la falaise, vous ferez une vue très belle et agréable sur la place et l'océan. Dans la zone de la place de Kedung Tumpang, en plus de profiter de la beauté des récifs coralliens qui ont une forme unique et sont de grande taille, la chose la plus intéressante est lorsque les vagues de la mer frappent les rochers de cette plage. Lors de la visite de la place de Kedung Tumpang, qui n'est qu'à environ 35 km du centre-ville de Tulungagung, c'est incomplète sans prendre de photos. Cette place, célébrée pour ses rochers, possède bien sûr de nombreux points d'intérêt. Après avoir voyagé et profité du magnifique paysage de cette place de Kedung Tumpang, les touristes peuvent encore profiter du coucher de soleil. Le matin, cette place présentera un beau panorama matinal avec une ambiance de lever de soleil très chaleureuse. Si vous souhaitez profiter à la fois de phénomènes naturels, de magnifiques lever et coucher de soleil sur la place de Kedung Tumpang, les touristes peuvent passer la nuit autour de la place en installant des tentes. Ainsi, lors de la visite de cette place, les touristes doivent préparer tout l'équipement et les fournitures nécessaires, y compris l'utilisation de vêtements et de chaussures de sécurité, notamment des chaussures d'escalade, parce que le terrain routier est assez difficile et escarpé. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
De Jakarta, voici la Voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Sangat kencang saat ku melihatmu. Wahai elok parasmu, membuatku menjadi gemeteran saat ku memandangmu. Tapi ku takut memandangmu. Oh, tapi
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Chers amis, nous présentons maintenant la rubrique l'Indonésie en couleur, intitulée « Ballon officiel de la Coupe du Monde 2022 fabriqué à Madiun ». L'Indonésie a effectivement contribué à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. En effet, le ballon officiel de la Coupe du Monde 2022, Al Rihla, est produit à Madiun dans l'est de Java, comme cité sur la page kemlo.go.id. Adidas avait confiance à Globalway en Indonésie pour produire le ballon. L'entreprise a exporté ses ballons aux Émirats Arabes Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Brésil. Grâce à l'exportation de ces ballons, les habitants de l'Est de Java sont devenus partie intégrante de la résonance économique mondiale. Depuis 25 ans, PT GWI travaille avec Adidas. Ils répondent également aux besoins d'Adidas en Coupe du Monde. Et PT GWI a fait confiance à 4 reprises pour produire des équipements de Coupe du Monde. Al Rihla a un design de panneau inspiré du bateau de boutre traditionnel et présente un motif solide en bleu, rouge et jaune qui représente le paysage de Doha au Qatar. De plus, Al Rihla est le premier ballon de la Coupe du Monde à être fabriqué exclusivement avec des encres et de la colle à base d'eau. Le ballon utilisé pour la Coupe du Monde Qatar 2022 possède également un certain nombre de fonctionnalités avancées. En plus d'être aérodynamique et d'avoir une variété d'avantages pour gâter les joueurs, ce ballon utilise une nouvelle technologie appelée technologie de hors-jeu semi-automatique. Selon FIFA.com, cette nouvelle technologie associée à Al Rihla, un ballon qui peut être connecté, est un élément important qui est arbitre pendant le match. Technologie de hors-jeu semi-automatique sera utilisée pour la première fois avec VAR lors de la Coupe du Monde 2022, quand Al Rihla avec le capteur de mouvement de l'unité de mesure inertielle, il jouera un rôle important pour déterminer si un hors-jeu se produit ou bien non. Le nom Al Rihla vient de l'arabe qui signifie voyage et le 14e ballon produit par PT Globalway avec Adidas. Ce site de production se trouve en Indonésie et en Chine. Cependant, 60 jusqu'à 70% ou plus sont produits par l'Indonésie, précisément à Madiun dans l'est de Java. Non seulement Al Rihla, un certain nombre de ballons officiels de la Coupe du Monde sont produits en Indonésie. Même des ballons fabriqués en Indonésie ont été utilisés dans plusieurs éditions de la Coupe du Monde, y compris le tricolor utilisé lors de la Coupe du Monde de France 1998, fait vert nova lors de la Coupe du Monde Japon-Corée du Sud en 2002, Team Gaze de la Coupe du Monde Allemagne en 2006, Jabulani à la Coupe du Monde Afrique du Sud en 2010 et Brazuca à la Coupe du Monde Brésil en 2014. Chers amis, c'était la rubrique l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
kau coba untuk menafikan keikhlasan hatiku padamu. Betapa ku mencoba mendapatkan separuh kasihmu.
Chansons que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia. Voici le magazine musical. Dans cette édition, je vais vous présenter une chanson de Kroncong intitulée Tiba Tiba qui est magnifiquement chantée par une jeune chanteuse Queen Salman avec Five In. Tiba Tiba est une chanson composée par Queen Salman qu'elle chante lui-même. Queen a remporté les Emmy Awards 2021 dans la catégorie meilleure artiste solo femme enfant. Queen a été inspirée par l'engagement soudain d'un enfant lorsqu'elle a composé cette chanson. L'engagement reportait au sommeil. Dans son sommeil, elle rêve de rencontrer une gentille fée qui l'incite à oublier sa frustration. Quand elle se réveille, elle se sent excitée d'accueillir une nouvelle journée avec enthousiasme et espoir. Bon, chers auditeurs, voici Queen Salman avec Five In dont le titre est Tiba Tiba. Bonne écoute!
Coba untuk terlelap, lelah rasa tubuhku. Tiba-tiba aku melihat
Indonesia.
Cinta dan kerinduan
auditeurs, voilà l'émission quotidienne en française pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.